boule vanille. J'aime bien la framboise.
Je pense que je prends deux boules vanille.
Deux boules vanille.
Deux boules vanille.
Salut, c'est Lucie. Tout au long de l'année, vous m'entendez habituellement dans l'émission d'information locale L'Arène, qui reviendra à la rentrée au mois de septembre. Là, ce que vous vous apprêtez à écouter, c'est Deux boules vanille, une carte blanche qui est laissée aux équipes de la radio pendant la période estivale. Dans l'émission du jour, on va parler de l'été à Rennes avec une recommandation de nouveaux bars culturels à tester et tout de suite, une recommandation de documentaire important à regarder.
Certaines lectures ébranlent les mythes de votre enfance. OK Joe fait partie de ces livres-là. Son action se déroule en août 1944, quand l'armée américaine libère la France de l'occupant allemand. Ce livre dévoile une part sombre de la libération, où se mêlent sexe, alcool, violence et racisme. Il raconte des exactions commises par des GIs américains envers les populations civiles françaises, des viols et des meurtres.
Bonjour Philippe Baron.
Bonjour.
C'est votre voix qu'on vient d'entendre. Vous êtes le réalisateur du film documentaire OK Joe qui est sorti au mois de juin et qui est à retrouver en ce moment sur la plateforme cubeweb.media jusqu'au 26 juillet. Il y a aussi une diffusion, on le dit tout de suite, qui est prévue le 24 juillet sur la chaîne parlementaire LCP. C'était quoi le point de départ à ce documentaire? C'est vous qui êtes allé voir les chaînes de télévision avec cette idée de documentaire, ou c'était une commande?
Non, je suis allé voir les chaînes avec ce projet. Et le point de départ, ça a vraiment été le livre de Louis Guillou, OK Joe, et la surprise que j'ai eue à sa lecture. Moi, j'ai grandi avec le mythe du soldat américain, du libérateur héroïque, et j'en étais un petit peu resté à ce point de vue. Et quand j'ai lu le livre de Louis Guillou, voilà, j'ai découvert que des Américains avaient commis des exactions, des viols, des meurtres à l'encontre des populations civiles alliées, françaises, bretonnes. Et là, j'étais ébranlé par cette découverte. Le livre de Guillou, c'est un récit, mais dans lequel il n'y a aucune mention des lieux, des personnes. Donc j'ai décidé d'aller confronter son récit à la réalité. Voilà.
Ce qu'on n'a pas dit, c'est que vous avez 30 ans de documentaire derrière vous. Vous avez travaillé encore pour France Télévisions, Arte, là la chaîne LCP. Ce film-là dont on parle aujourd'hui, OK Joe, il a été produit par les films du sillage avec ce point de départ du livre de Louis Guillou qu'il faut présenter en quelques mots. Un breton, il est de Saint-Brieuc je crois, et avant d'être écrivain, il était traducteur.
Il a fait les deux tout au long de sa carrière. Il avait appris l'anglais d'une manière autodidacte. Et puis là, quand ses romans marchaient moins, il complétait ses revenus en étant traducteur. Il a traduit un certain nombre de romans américains, de romanciers américains. C'était quelqu'un de très célèbre dans les années 30. Il a failli avoir le prix Goncourt en 1935 pour Le Sang Noir, qui est son grand livre. Il était l'ami de Gide, de Malraux, de Camus. Donc c'est quelqu'un qu'on a un petit peu oublié. Enfin, en Bretagne, on s'en souvient, mais au plan national, on l'a un peu oublié, mais qui comptait dans ces années-là.
Et OK Joe, c'est donc un livre alors qui n'est sorti qu'en 1976, 30 ans après la Seconde Guerre mondiale. Louis Guillou, pendant cette période, était traducteur pour l'armée américaine. On parle d'un roman qui est vraiment inspiré du réel, qui prend quand même une forme de fiction. Comment il s'est arrangé avec ça?
Alors Guillou, d'abord oui, il sort son livre en 76, ça veut dire qu'il a mis 30 ans à l'écrire. C'est un tout petit livre hein, de 130 pages, mais c'est un livre qu'il a sans doute Voilà, qui a mis un très long temps de maturation. Il a hésité sur la forme. Au début, c'était vraiment, il partait sur quelque chose de plus romanesque, de plus romancé. Et puis, petit à petit, il l'a vraiment épuré et il s'en est tenu à la fin, aux faits, à une description des faits assez clinique. Et c'est un livre dont je recommande la lecture, hein, parce que c'est, il nous replonge dans l'état d'esprit d'un Breton moyen à la libération, voilà, puis qui se retrouve embarqué auprès de l'armée américaine pour enquêter, et puis qui découvre ses exactions, et puis qui découvre les procès des cours martiales.
Ces exactions, on parle de tentatives de viol et de viol, avec aussi des cas d'homicide. Vous êtes allé confronter ce que vous avez découvert dans ce livre aux témoignages de Bretons, souvent les petits-enfants de la génération qui a été victime de ces exactions de la part de militaires américains. Parce que justement, vous trouviez peu de documentation sur ce sujet-là, vous aviez besoin d'aller voir sur le terrain, quoi.
Oui, alors bon, j'ai commencé par lire un peu tout ce qui a pu exister, tout ce qui a pu être écrit là-dessus. Donc il y a un certain nombre de travaux d'historiens amateurs, de profs de littérature. Quelques articles ici et là. Bon, j'ai commencé par ça, et puis après, bah, bon, pour faire un film, il me faut aussi des gens, il faut
et de l'image,
de l'image, il me faut aussi des, voilà. Et je me suis dit, bah, alors qu'est-ce qu'il en reste. Et là, je suis parti à la pêche. Ça a été une enquête assez longue pour retrouver. Bon, au début, je me disais, est-ce que 78 ans plus tard, je vais retrouver des témoins directs. J'en ai retrouvé quelques-uns, hein, dont une vieille dame qui avait 9 ans à l'époque, qui raconte cette nuit terrible, tragique, où les choses se sont passées dans sa famille. J'ai retrouvé des témoins de pendaison, voilà, et bon, je trouvais vraiment intéressant de collecter leur témoignage, hein, c'est des gens qui sont âgés, qui n'en avaient jamais parlé, qui n'avaient jamais témoigné de ça, et j'ai envie de dire, il était temps de le faire. Et puis j'ai aussi retrouvé des descendants, et là c'est aussi l'intérêt de voir comment cette mémoire s'est transmise ou pas. Justement, elle est souvent restée très taboue, très dans le secret de famille, et il était temps que ça sorte, quoi.
Ça, on le découvre notamment avec la famille Tournelet, qu'on croise aussi. François, qui avait 16 ans en 1944, Denise, qui en avait 18. Alors vous parliez de pendaison, on va y arriver à ce sujet, pendaison de soldats, en l'occurrence des soldats noirs, très souvent condamnés pour ces faits d'exaction. Il faut recontextualiser, l'armée américaine, elle libère la France occupée par l'ennemi nazi en août 1944. Elle arrive en Bretagne dans des campagnes qui sont décrites comme à l'écart du monde. C'est un vrai choc pour ces soldats américains.
Ah oui, c'est vrai qu'il faut imaginer. Bon, les Américains arrivent avec une certaine opulence, hein. Ils ont des camions de nourriture, de cigarettes, et ils arrivent dans les, pour se remettre dans le contexte de la Bretagne de l'époque, hein. C'est vrai que c'est très peu électrifié, il n'y a pas l'eau courante, les nouvelles, on se demande comment elles arrivent, enfin, en tout cas pas par internet.
Les populations vivent essentiellement de la paysannerie à cette période.
Voilà, les gens sont des paysans, des petits paysans, des petites fermes. Très très modeste, voilà, c'est le sol en terre battue, l'étable à côté de la pièce où on dort encore à quatre. Donc les Américains arrivent là-dedans, ils ont vraiment la sensation, enfin il y a un écart énorme, quoi. C'est clair.
Ce qui est intéressant, c'est de comprendre que ces soldats, finalement, se trouvent face à une guerre qui a peu de sens pour eux de venir en France, là, en l'occurrence, en Bretagne. Ce qu'on leur a vendu, c'est l'image de Française. C'est un peu vendu comme une récompense, finalement. Vous allez y aller, vous allez voir, vous allez être acclamé, embrassé, et vous allez peut-être terminer dans le lit de ces Françaises-là. C'est vendu par l'armée américaine.
C'est clairement vendu par l'armée américaine. J'ai interrogé une historienne qui s'appelle Marie-Louise Roberts, américaine, qui a beaucoup travaillé là-dessus et qui m'a montré un certain nombre d'extraits de presse américaine, de la presse que lisaient les GIs, c'était Stars and Strip, et dans lesquels il y avait, ben voilà, voilà pourquoi nous nous battons, avec des photos de Françaises prêtes à les acclamer. Et c'est vrai que cette image de la Française assez libérée fait partie de, comme vous le dites, des motivations que pour des jeunes soldats américains qui sortent de leur Minnesota ou de très loin, bon, on leur demande d'aller se battre en Europe. Voilà, c'était une motivation.
Je vous propose d'écouter l'extrait d'un morceau de Jacques Pils. Le titre, c'est Oh là là. Il est sorti en 1945, ce morceau. Et je trouve qu'on y entend un peu là, de cette image des Françaises qu'on a vendue aux soldats américains pendant la Seconde Guerre mondiale.
Quand un soldat de l'armée américaine chez nous se promène sur les boulevards, pour bien se faire comprendre, il a de la peine, il se démène et pique son phare, avalant son chewing-gum d'émotion, il entame une conversation. Oh là là, good morning mademoiselle, oh là là, I go to l'opéra, oh là là, je speak pas very well, oh là là, c'est-il là ou pas là, en souriant, la petite parisienne dit gentiment, justement je vais par là, oh oh, oh là là, heureux de cette aubaine, oh là là, il la suit pas à pas, oh là là, pour lui c'est un coup de veine, oh là là, elle va là où il va, en chemin on fait un petit brin de causette.
Bon, pour vous spoiler un peu, à la fin du morceau, le soldat américain, il se marie avec la Parisienne qui l'a croisée. C'est un extrait du morceau « Oh là là » de Jacques Pils, qui est sorti en 1945. On revient à ce documentaire « Ok Joe » qui est sorti au mois de juin, que vous avez réalisé, Philippe Baron. Pour comprendre ces exactions, très concrètement, on parle de viol, de tentatives de viol, et parfois de meurtre, en fait, contre ceux qui se sont interposés. Il s'agissait souvent des frères, des pères de ces victimes.
Oui, tout à fait. C'est un schéma qu'on retrouve vraiment fréquemment. Alors, les viols, c'est difficile, ils sont difficiles à évaluer, hein, mais bon, les historiens parlent tous de milliers, dizaines de milliers pour la Normandie et la Bretagne. Et puis, comme vous le dites, parfois, un père, un frère tentent de s'interposer, et puis voilà, les soldats, qui sont souvent complètement ivres, il y a un coup de fusil qui part, et puis on a eu comme ça plusieurs dizaines de cas de meurtre.
Extrait du film documentaire « Ok Joe », dans lequel vous êtes avec le petit-fils d'une des victimes qui revient, je crois, pour la première fois hein, sur les lieux. On est dans une ferme en Bretagne.
C'est ici que le drame a eu lieu, 21 août 44, donc dans cette maison derrière.
Ask her. Demandez-lui. Oui, la jeune fille était allée au camp. Demandez-lui pourquoi faire. Pour voir, comme tout le monde, a répondu la mère. On disait qu'ils étaient si gentils. Il vous a suivi, a demandé le lieutenant Stone. La jeune fille ne le savait pas. Elle ne s'était pas rendue compte. Il allait faire nuit. On s'apprêtait à aller se coucher quand on a entendu marcher dans la cour. Le soldat avait appelé mademoiselle. Aussitôt, la mère avait fermé les volets, tandis que le père verrouillait la porte. Le père a crié au soldat de s'en aller. Il n'y a pas ici de mademoiselle pour vous. Le lieutenant Stone a voulu savoir si le père n'avait pas injurié le soldat, si par exemple il ne l'avait pas traité de sale nègre. Non. On lui a dit de s'en aller. Tout ce qu'elle pouvait dire, c'est que le soldat, devenu furieux, s'était mis à cogner dans la porte à grands coups de pied. La peur les avait pris. Ils se sont dit que la porte allait céder. Le père et la mère, s'accotant contre la porte, sont restés là longtemps, à pousser. Combien de temps ? Je ne sais pas. Il cognait très fort, la porte tremblait. On poussait toujours. Il s'est arrêté. On l'a entendu marcher et on a cru qu'il s'en allait. C'est là qu'il a tiré dans la porte. Le père s'est écroulé, la moitié du crâne enlevée. La mère n'avait pas compris tout de suite. Ce n'est que plus tard qu'elle s'est rendue compte qu'elle était couverte du sang et de la cervelle de son mari, et qu'elle avait la joue à moitié enlevée.
Philippe Baron, par rapport à cet extrait qu'on vient d'entendre, le petit-fils de la victime, lui, qu'est-ce qu'il en savait de cette histoire qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cet échange qui a eu lieu entre vous, le réalisateur, et puis ce petit-fils?
Bah, curieusement, Pierrick Perrou, donc le petit-fils, on lui avait raconté que son grand-père avait été tué par les Américains, mais il n'en savait pas beaucoup plus. Et il a fallu attendre qu'il ait 45 ans pour qu'il tombe par hasard sur le livre de Louis Guillou. Et c'est en lisant cette œuvre littéraire qu'il en a appris beaucoup plus sur son histoire familiale, ce qui est assez paradoxal. Mais donc il en savait très peu, et maintenant, bah, ce qu'il en sait dans le détail, c'est ce qu'en a écrit Louis Guillou, qui, lui, était présent avec l'armée américaine le lendemain des faits et a enregistré dans sa mémoire le témoignage de la grand-mère de Pierrick et de sa mère, etc. Donc la littérature et le document se mélangent, et j'ai trouvé ça très, très beau.
On est 80 ans plus tard, on sent qu'il s'est toujours inscrit dans l'histoire de ce petit-fils. Il s'agit toujours de quelque chose de sensible.
Alors, c'est quelque chose de sensible pour lui, évidemment. Et puis, quand vous dites inscrit, c'est aussi inscrit dans le paysage. C'est-à-dire que cette petite maison, cette petite ferme, elle est restée, j'ai envie de dire, un peu dans son jus. Maintenant, c'est une sorte de remise qui est à côté de la maison qui a été construite dans les années 50. Mais elle est restée dans son jus avec... Détail assez incroyable, c'est que le trou de la balle du GI américain est toujours dans la porte. Comme si la famille avait hésité à gommer cette trace, cette cicatrice. Et c'est vrai que moi j'avais demandé à Pierrick, je lui ai dit, mais attends, c'est quand même bizarre que depuis 80 ans on n'ait pas rebouché ce trou. Il m'a dit non, moi je l'ai toujours vu comme ça depuis que je suis enfant.
Un trou au milieu d'une porte imposante en bois, il faut s'imaginer, voilà, une ferme bretonne. Alors les faits, ils vous sont racontés en plus des écrits de Louis Guillou dans son livre qui date de 1976 par des historiennes. On croise Marie-Louise Roberts qui est américaine et puis son homologue française Pauline Peretz. Et puis donc les témoignages de descendants des victimes et aussi de témoins directs. Vous le disiez, on est 80 ans après la Seconde Guerre mondiale. À l'époque, avec la multiplication des dossiers, l'armée américaine installe des cours martiales pour mener des jugements qui vont être assez expéditifs, et ça se passe dans des lieux qui ne sont pas habitués à ce genre de scène. Il y a la salle des fêtes à Morlaix.
C'était la salle des fêtes du lycée de garçons, voilà, qui est aujourd'hui une salle de réunion très banale, mais donc c'était transformé en cour martiale.
Dans le film documentaire, pour donner une idée, c'est reconstitué sous forme animée, un peu dessinée, où on essaye d'imaginer ce qui a pu se jouer dans ce lieu. À l'époque, ce que constate le traducteur et auteur Louis Guillou, c'est que ce ne sont que... presque que des soldats noirs qui sont jugés, condamnés à la peine capitale, avec en fond un contexte de ségrégation raciale installée aux États-Unis, ce qui poursuit ces soldats américains, même sur le territoire français, en fait.
Ben oui, les Américains, ils arrivent avec leur culture et avec leur pratique, y compris la ségrégation. C'est-à-dire que au sein de l'armée américaine, voilà, il y a deux armées, en fait. Il y a une armée de blancs et puis une armée de noirs.
Beaucoup moins nombreuses.
Beaucoup moins nombreuses. Les noirs sont à peu près 10%, mais toujours sous les ordres d'officiers blancs, souvent uniquement chargés de l'intendance. Hein. C'est très très exceptionnel quand ils ont le droit d'aller au combat. Et puis dans les procès, bah, c'est ce que constate Louis Guillou. Bon, le premier jour, il assiste au procès. Voilà, et puis après le lendemain, il assiste à un autre procès. Chaque jour, il assiste à des procès. Et puis à un moment, il s'est dit, mais c'est bizarre, il n'y a que des Noirs qui sont jugés et qui sont la plupart du temps condamnés à mort.
Il pose la question, alors pour avoir des éléments de compréhension, pourquoi est-ce que seuls les soldats noirs sont condamnés à mort et à la pendaison, en l'occurrence, il faut parler des stéréotypes racistes bien installés à cette époque. Je vous laisse écouter un extrait du documentaire. On va y entendre un ancien soldat noir de l'armée américaine avec les explications de l'historienne française Pauline Peretz.
The American Army circulated stories about us to the Scottish people, that we had tails that had been operated on and taken from us, that we were infected with syphilis and other venereal diseases. All these things, this came from our own army.
Le fait que les hommes noirs puissent être présents dans la communauté blanche est quelque chose qui inquiète beaucoup les racistes du Sud, et en particulier le fait qu'ils leur prennent leurs femmes. Et donc il va y avoir vraiment des lois qui vont interdire les mariages interraciaux. Enfin, c'est quelque chose qui revient très loin, hein, même après la Seconde Guerre mondiale dans les États du Sud. Donc le mariage entre un homme noir et une femme blanche est interdit. Et le fait qu'il y ait pu avoir des liaisons ou des amourettes entre soldats noirs et femmes blanches européennes, c'est quelque chose qui n'est pas concevable pour l'armée américaine de l'époque. Et donc le soupçon de viol va très, très vite partir.
Le soupçon de viol arrive très vite. On se méfie des Noirs en période de ségrégation raciale aux États-Unis. On a peur qu'ils prennent les femmes blanches, avec, en plus de ça, une hypersexualisation des Noirs. Et ça voyage en France, en Bretagne.
Voilà, ça s'est importé. Les Américains arrivent avec leurs stéréotypes, y compris. Voilà. Alors, évidemment, ça ne veut pas dire que les Français, que les Bretons n'avaient pas leur propre racisme, hein, dans le contexte d'empire colonial, etc. Mais les Américains arrivent avec leurs stéréotypes, avec leurs pratiques ségrégationnistes, et ils l'imposent dans nos contrées.
Il y a aussi des éléments très pragmatique, à savoir que donc les soldats noirs représentent moins de 10% du contingent et qu'ils n'occupent pas les mêmes positions que les soldats blancs. Ils sont en fait moins mobiles que leurs homologues blancs, ce qui explique que quand il y a un cas de viol, de tentative de viol, les soldats blancs peuvent vite déguerpir, on va le dire comme ça.
Mmh. Oui, tout à fait. Quand on regarde de près les jugements et les mots employés dans les cours martiales, ils ne sont pas les mêmes quand un soldat blanc est jugé et quand un soldat noir est jugé. Quand c'est un soldat noir, on parle d'une abomination, d'une sauvagerie, c'est ces mots-là qui sont souvent employés. Et j'ai envie de dire, quand c'est des soldats blancs, on parle plutôt de comportement inapproprié. Vous voyez, voilà, on n'est pas du tout sur le même ton. Ce qui fait que, bon, il y a quand même eu des soldats blancs qui ont été jugés, mais jamais condamnés à mort. Jamais, ni condamnés à mort, ni pendus. Ils ont pris de la prison. Mais par contre, les Noirs étaient systématiquement condamnés et très souvent à des peines extrêmement sévères.
Et en plus de ça, les potentielles victimes, les femmes, sont plus longuement interrogées quand le soldat est blanc. Il y a tout un fonctionnement, des éléments qui s'ajoutent, qui expliquent ce constat-là.
Oui, tout à fait. La femme blanche, si le soldat noir est jugé, on va écouter la femme, on va la croire sans problème. Si c'est un soldat blanc, là, va falloir qu'elle démontre le fait qu'elle était violée, mais qu'elle n'était pas. C'est bon.
Les biais sexistes vont reprendre le dessus sur toute idée de justice.
Oui, tout à fait.
C'est ce qui est expliqué. Le soldat américain noir qu'on vient d'entendre là dans un extrait, qui nous parlait un peu des stéréotypes qui ont notamment été un peu vendus, en l'occurrence aux Écossais, sur les Noirs. Ce soldat décédé depuis, il évoque l'absurdité de leur situation. Ces soldats noirs, ils sont à l'armée comme des esclaves dans une plantation, mais ils sont là pour vaincre une autre idéologie raciste, celle des nazis. Ça n'a aucun sens pour eux. On le redit, là, ces exécutions de soldats condamnés pour des viols et des meurtres, elles ont lieu en public. Il faut quand même se redire qu'à l'époque, la peine capitale était toujours en cours ici, elle était toujours d'actualité ici en France à cette période. Vous avez trouvé des personnes qui ont des souvenirs de ces moments, on peut dire, entre malaise et quand même le sentiment que c'était bien mérité.
Oui.
Une sorte d'ambivalence.
Il y a une ambivalence. Alors après, c'est vrai que moi j'ai gardé ces témoignages justement avec leur ambivalence. Parce qu'il faut aussi se remettre dans le contexte, hein. C'était un contexte quand même hyper violent à tous les niveaux, et puis des exactions, ils venaient d'en subir des pires encore avec l'armée allemande, il y avait eu des règlements de compte à la libération, et là sans aucun jugement, donc il faut se remettre dans ce contexte hyper violent, et dans lequel le racisme était aussi à même monnaie courante. Donc oui, les deux personnes, l'un comme l'autre, à l'époque, en étant gamin, trouvé ça normal. J'ai trouvé ça intéressant qu'il l'assume encore en disant bah oui, à l'époque, on trouvait ça normal.
En tout, ce sont plusieurs dizaines de pendaisons qui ont eu lieu ici dans la région Bretagne. Et cette période, c'était finalement pour certains Bretons la première fois qu'ils rencontraient des personnes noires. Il faut le redire que les migrations d'habitants de colonies françaises se sont développées dans l'après-guerre. Et finalement, ces exactions ont participé, c'est une idée folle, à la naissance du racisme ici en Bretagne. Ce documentaire que vous avez réalisé, Philippe Baron, OK Joe, c'est son nom, il se termine sur la nécessaire levée du tabou avec finalement un traumatisme qui s'est transmis sans mots. Aujourd'hui, en gros, il est toujours difficile d'envisager ces soldats américains sous un autre jour que celui des libérateurs. Ça fait une dizaine d'années là, que ce sujet-là... On peut en parler et pourtant vous avez quand même rencontré des difficultés, un tabou qui est encore là.
Oui, c'est encore délicat. C'est encore délicat. Il y a encore un travail historique à faire, d'ailleurs, je pense. Les historiens français sont encore assez timides sur ces questions-là, parce que moi, la plupart des travaux que j'ai lus, c'était des historiens plutôt américains. Comme si, voilà, c'est toujours difficile de dire du mal de nos libérateurs. Alors, il ne s'agit pas de remettre en question leur héroïsme, etc. Mais bon, de mettre des bémols, de mettre des nuances de gris dans cette histoire. Mais c'est encore difficile. Et puis, côté américain aussi, c'est encore assez difficile parce que le mythe du libérateur américain de 1944 et de cet héros-là est encore très fort aux États-Unis. Et par exemple, moi, j'ai voulu filmer les tombes de ces soldats pendus.
Qui sont bien à part hein, dans le cimetière américain.
Voilà, qui sont dans un cimetière américain de l'Oise, mais vraiment dans une partie très à l'écart, inaccessible au public. Et bon, j'ai pas eu l'autorisation, voilà. Je pense que les Américains ont encore du mal aussi avec ces histoires.
Je vous remercie en tout cas d'être venu nous présenter ce film documentaire, Philippe Baron. Son nom c'est OK Joe, il est sorti au mois de juin et à retrouver sur la plateforme Cube, KUBweb.media. C'est en libre accès jusqu'au 26 juillet. Il y a aussi une diffusion qui est prévue sur la chaîne parlementaire LCP le 24 juillet prochain. On va se quitter avec les dernières minutes de ce film documentaire où on entend la voix de Louis Guillou et une illustration musicale. Vous avez choisi le morceau Strange Fruit de Billie Holiday.
C'est un morceau qui évoque les lynchages de Noirs aux États-Unis, qui était monnaie courante dans les années 30. Et je pense que pour les soldats américains, le fait d'être pendu comme ça pour des viols, alors des viols qu'ils avaient sans doute commis pour la plupart, mais je pense que ces lynchages devaient y avoir forcément un écho pour ces jeunes soldats afro-américains.
Merci beaucoup Philippe Baron.
Merci à vous, au revoir.
Je ne sais pas comment j'ai retrouvé ma chambre. Il y faisait aussi noir que dehors. Ni comment j'ai retrouvé mon lit. Je me suis endormi aussitôt, enveloppé dans mes trois couvertures. Oui, c'est vrai qu'un homme qui s'endort ferme les yeux sur bien des choses.
Southern trees bear strange fruit. Blood on the leaves and blood at the root. Black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar trees. Gallant South, the bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolia, sweet and Then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for the sun to rot, for the tree to drop. Here's a strange and bitter cry.
Holiday et son Strange Fruit, un morceau interprété pour la première fois par cette chanteuse afro-américaine en 1939. Ce morceau, il est en fait tiré d'un poème d'Abel Miropol et le texte, il dénonce les lynchages subis par les afro-américains. On va quitter ce sujet douloureux pour un reportage, je le dis, un petit peu plus léger. Et on parle de la Reine de Cœur, c'est le nom d'un nouveau bar, restaurant et lieu de la galaxie ludique installé ici à Rennes. On est dans le quartier Villejean, à deux pas de l'agrocampus Rennes. Et depuis le début du mois de juillet, Sarah, Thomas et Loïs accueillent les clients au 48 rue de Saint-Brieuc. Allez, reportage.
Pas trop de musique martiale ?
Non, ça me va.
Eh bien, moi c'est Loïs, j'ai 30 ans. Alors on est trois co-gérants. On s'est un peu réparti les tâches entre nous trois. Bon, après, on éparpille, on va pêcher un peu à droite à gauche. Moi, ma tâche principale, c'est responsable cuisine, sachant qu'on a un chef en cuisine. Donc, bon, finalement, c'est s'assurer que tout va bien pour lui. Et à côté de ça, c'est aussi toute la gestion, on va dire, back-office du projet, les outillages, tout ça. Voilà, le côté un peu obscur qu'on ne voit pas forcément.
Moi, Thomas, du coup, j'ai 33 ans. Moi, j'étais déjà dans le milieu du bar avant, donc je gère plutôt tout ce qui est party bar, donc carte de cocktail, réapprovisionnement, etc. Et puis, on l'a pas dit, on se connaît depuis une dizaine d'années, nous. On s'est rencontrés dans le milieu ludique, dans une association qu'on a présidée tous les trois à tour de rôle.
Qu'on peut citer ?
Oui, c'est Borderline Games. Voilà.
Et moi, c'est Sarah, j'ai 30 ans aussi. Je viens du milieu de l'informatique, comme Loïs, donc pas du tout du bar. Et moi, je vais gérer plutôt la partie com et réseaux sociaux. Et je vais aussi faire le bar avec Thomas, on va se relayer midi et soir.
Et ouais, puis toute la partie événementielle
et
aussi.
Et toute la partie événementielle, ouais. Oui, parce qu'on va faire beaucoup d'événements, événements culturels, on en parlera peut-être après.
Peut-être le point de départ, je pense que c'est un fantasme dans pas mal de groupes d'amis. Je repense à cette série How I Met Your Mother. Ouais. Comment est-ce qu'on se dit un soir et si on lançait notre bar ?
Moi, à la base, j'avais un autre projet. Je voulais ouvrir une auberge de jeunesse à Rennes. Sauf que ça n'a pas pu se faire pour diverses raisons, notamment le fait qu'il y a une grosse auberge de jeunesse, Les Chouettes, qui a ouvert au moment où moi j'étais en train de me lancer. Donc c'était un peu dur de rivaliser par rapport à ça. Et Loïs et Sarah avaient en tête un projet, c'était quoi, d'auberge, taverne, ludique.
De faire une auberge de jeu à la base.
Ouais,
des gens, où des gens puissent s'arrêter, dormir, jouer.
Mais pareil, c'était un peu complexe, auberge, tout ce qui était... C'était beaucoup trop ambitieux,
C'est un autre budget.
Et du coup, un soir, quand j'ai dit que mon projet était mort, je me suis rappelé qu'ils avaient un projet un petit peu dans le même genre. Et du coup, on a discuté, on s'est dit, bon, est-ce qu'on essaie pas de faire un truc tous les trois ?
Ouais.
Et deux ans et demi après, on est là, quoi.
Presque trois ans,
ouais,
je dirais.
Et au fur et à mesure, bah, notre projet a évolué en fonction de, bah, des lieux qu'on visitait. Donc ce lieu-là, on l'a trouvé, il nous plaisait beaucoup. Et le fait d'avoir deux espaces bien distincts, une terrasse, c'est là où a commencé à germer notre idée, évoluer, en tout cas d'aller plus sur un aspect culturel. Donc de ne pas uniquement se focaliser sur le jeu de société, mais d'aller vraiment dans toute la culture, donc musique, stand-up et compagnie. Et voilà.
On peut parler donc du lieu, où est-ce qu'on se trouve et pourquoi est-ce que c'est cet endroit-là qui vous a tapé dans l'œil ?
Eh bien, à la base, on ne visait pas du tout un bar de quartier. À la toute base, on cherchait plutôt à faire une formule type after work, donc on visait plutôt une zone type Cesson, Via Silva, tout ça. Et en fait, on a vu ce lieu-là. Et en fait, on s'est dit que ça cochait toutes les cases de ce qu'on voulait. Et du coup, bah, en fait, on s'est rendu compte qu'on était juste en face de l'agrocampus et pas très loin de Villejean. Et qu'il n'y avait pas de bar, en fait, le soir, ici. Donc, en fait, tout nous a semblé logique et on est parti là-dessus, quoi.
Il s'est passé quoi en 2 ans et demi, 3 ans pour essayer d'expliquer aux auditeurs, à partir de l'idée, comment est-ce qu'on arrive à ouvrir son établissement? Là, c'est assez récent, c'était la semaine dernière.
C'était samedi dernier, on a ouvert.
C'est ça. Le démarrage est plus long, après ça s'accélère. Plus on avance, plus ça s'accélère, en fait.
Ouais.
C'est au début, on tâtonne, on voit comment on fait, parce que forcément, on n'est pas du milieu. En tout cas, on n'a jamais géré d'établissement, donc on ne sait pas trop comment on fait. Donc, on va avoir des organismes pour se documenter, etc. Mmh. Les rendez-vous sont assez espacés. Et puis après, il arrive un moment où on visite le lieu, et là, ça s'accélère un peu plus. Donc, faut se documenter sur énormément de choses en parallèle, parce que forcément, on n'est pas juste à servir des coups et à distribuer un repas. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'autres aspects qu'il faut évoluer derrière. Et du coup, il faut se former sur énormément de choses en très, très peu de temps pour essayer d'englober tout très rapidement. Et puis, au fur et à mesure, on découvre une nouvelle chose, on découvre une nouvelle chose. Et puis, c'est beaucoup de temps, beaucoup d'investissement.
Ouais, c'est très, faut être persévérant surtout, parce qu'en fait, il y a toute une phase qui est horrible, où en fait, tu vas voir des banques et ils te disent oui, mais vous avez trouvé un lieu. Et quand tu vas voir un agent immobilier, il te demande ton budget pour trouver un lieu, mais du coup, t'as pas de budget parce que ta banque, enfin voilà. Du coup, en fait, tu fais des ping-pong comme ça. Donc en fait, au début, t'es un peu démoralisé, tu sais pas par quel bout prendre les choses et tout. Et je sais pas comment c'est possible d'ouvrir un truc tout seul, parce que là,
ça, c'était une question qu'on s'est beaucoup répété. Hein.
Ouais.
Mais si on n'était pas trop, on n'aurait pas réussi.
Ouais.
Vous avez fait le choix d'ouvrir un financement participatif. Est-ce que c'est courant dans ce secteur-là? Et sur quelle communauté vous avez pu vous appuyer pour que ça marche?
Je sais pas si c'est courant.
Dans le secteur du bar en particulier, je pense pas. C'est dans le milieu ludique où c'est plutôt courant. Mm-hmm. Et du coup, comme nous, on a cette culture ludique-là, je pense qu'on on y a été assez naturellement vers le crowdfunding. Mm-hmm. Et puis, on avait surtout des choses à proposer assez différentes en fait, de ce qui se propose. Et c'est ça, je pense, qui a plu aussi au niveau du crowdfunding, de proposer des choses nouvelles, originales.
C'est ça. On a quand même là réussi à créer un lieu qui est très complet. On fait de la restauration traditionnelle le midi, on fait un bar le soir, il y a du jeu de société, il va y avoir des spectacles, et on a vraiment une scène, enfin un espace qui a été imaginé et réfléchi pour accueillir des spectacles. C'est pas juste tiens, on va faire un spectacle dans un bout de salle machin, non, là il y a une installation sono qui est faite pour. Donc ouais, tout ça a fait que sur le crowdfunding, ça nous a permis de mettre en avant. Mais globalement, notre objectif pour le crowdfunding, c'était plus de faire de la communication autour du projet que de réellement engranger de l'argent. Et on a été très très surpris de l'engouement qu'il y a eu autour de notre campagne, qui a été dans le top 10 des campagnes financées sur la période.
Ouais.
On était sur la page d'accueil et tout.
En moins de 48 heures, on avait financé l'objectif qu'on s'était mis au début. Ouais. Mm.
Comment vous avez vécu les premiers jours là, d'ouverture, quand c'est un premier projet de bar dans sa vie? Ça ressemblait à quoi?
C'est assez particulier, parce que à la fois on est exténué de tout ce qui s'est passé avant, parce qu'il faut savoir qu'avant l'ouverture, je pense qu'on a enchaîné un bon mois et demi de travaux, de journées. On n'a pas pris de pause, en fait, on a enchaîné des journées de travail de 10-12 heures, voire plus. On a même fait des journées de 18 heures. Voilà, ça n'en finissait pas, vraiment sans pause, pas de dimanche, rien. Donc c'est la tête dans le guidon, on ne prend pas le temps de reculer, on fait robotique, on avance, parce qu'on n'a pas le choix. Donc là, je pense qu'on commence tout juste à réaliser un peu que ça y est, c'est ouvert. On commence à faire des services, là, le midi. On a fait notre inauguration samedi, mais là, à partir de mercredi, on va ouvrir le soir. Donc aussi, je pense qu'on va commencer à réaliser que, petit à petit, c'est un lieu qui va vivre et qui va exister. Et...
Alors, sachant qu'en plus, là, on est en début d'été, donc les étudiants sont déjà partis. Il doit y avoir un lancement qui est quand même particulier.
Alors nous, l'enjeu principal, c'est-à-dire que là, on reprend, c'était un restaurant avant. Donc nous, l'enjeu principal, c'était que le resto du midi, déjà, soit réidentifié comme on peut venir manger là le midi, on est servi globalement rapidement, les produits sont bons, voilà. Sur les deux services qu'on a fait pour l'instant, j'ai l'impression que les gens sont contents de la nourriture. Il nous reste un petit peu d'optimisation encore à faire sur la qualité du service en termes de temporalité et puis nous. Et après, bah, petit à petit, le lieu, je pense, il va se faire connaître parce qu'il est globalement... Bah, j'ai l'impression, en tout cas, de ce qu'on a eu comme retour, qu'il y a une âme dans ce lieu-là, que c'est pas juste un débit de boisson. Donc là, on est dans un lieu qui nous ressemble, en tout cas.
Ouais, avec un rythme de vie auquel il faut s'habituer sur le fait de travailler le week-end, le soir, tard, etc.
En fait, c'est la principale difficulté du métier, c'est qu'on vit un peu en décalé, quoi. Socialement, c'est compliqué parce que bah, tu travailles le vendredi, tu travailles le samedi soir. Du coup, quand tes potes ils font la fête, bah, toi, tu fais pas la fête. Et on se disait ça samedi dernier, notamment, parce qu'on avait beaucoup de potes qui étaient là à boire des coups. Et eux, ils se rendaient pas compte que nous, on n'était pas sous. Donc, après le bar, ils ont fait « Ouais, vous venez en after et tout. » Bah non, faut qu'on lave le bar, nous.
Faut qu'on aille dormir.
Voilà. Donc, non, mais l'avantage d'être trois gérants, par contre, c'est qu'on va pouvoir aussi... S'il y a un truc que je peux rajouter aussi sur la motivation, c'est de pas avoir de patron. Ça, c'est quand même... On va pas se mentir que c'est pas mal du tout.
Au-delà du fait de pas avoir de patron... c'est de travailler pour soi, en fait. C'est beaucoup plus motivant de bosser pour un truc qui est à nous et on sait où ça va, quoi.
On peut dire ce qu'il y a à la carte. Quel choix vous avez fait sur ce que vous mettez dans les assiettes?
L'objectif de la carte, c'est vraiment d'avoir une cuisine qui s'étale pas. On veut des produits frais, on veut des produits locaux au possible. Du coup, on va faire un menu hebdomadaire qui va changer toutes les semaines, du coup, hebdomadaire. Là, cette semaine, en entrée, on propose... deux types de soupes, donc une soupe de moule avec poulpe et algues et compagnie, un gazpacho de betterave avec fèves. En plat, on va proposer un poulet à la rhubarbe, des croquettes de poivron. En dessert, on va proposer un gâteau de riz et une pêche rôtie. Voilà, j'ai né tellement dans la cuisine que... Et du coup, alors je sais pas si vous l'avez noté, mais l'idée c'est vraiment d'avoir toujours une proposition végétarienne. Une proposition carnée, parce qu'il y a de plus en plus de végétariens, c'est normal. C'est aussi dans la, voilà, dans le développement, la viande coûte cher, et même pour la morale qui se cache derrière, enfin bref. Pour moi, ça semble logique de proposer une cuisine végétarienne, et pour montrer de toute façon qu'il y a moyen de faire des choses très chouettes sans viande, voilà. Sans poisson, juste végétal.
On peut dire un mot sur les prix, ça marche sous... Enfin, du coup, il y a une formule.
Oui, on a une formule entrée plat dessert à 19,90 ou juste un plat du jour à 12,50.
Okay.
Voilà, puis après plat dessert, c'est 16,50, je crois.
Ça, c'est pour le midi et le soir à partir du mercredi jusqu'au week-end, le lieu devient un bar culturel. Est-ce que vous avez déjà des éléments sur la programmation? Ou c'est aussi un appel qui peut être lancé
Alors carrément, ça peut être un appel parce qu'on n'a pas eu le temps de s'en occuper. Sur notre inauguration quand même, on a eu un spectacle de théâtre d'improvisation avec la TIC. On a eu après un blind test organisé par un ami à nous dans le bar. À la fin du mois de juillet, normalement, on devrait réussir à organiser un stand-up avec la Reine Comédie. C'est une association qui organise du stand-up, notamment ils font ça à l'usine. Ils ont dû faire la Fée Verte aussi, peut-être. Mais c'est très chouette ce qu'ils font, il faut aller les voir.
On a déjà fait un concert aussi pour notre
pré-ouverture. Oui, bien sûr, j'ai oublié.
Enfin, un concert avec Max Dorian. Mmh. Et on prévoit plein d'autres concerts. Après, nous, on a eu des demandes. Et n'hésitez pas surtout à faire d'autres demandes parce qu'on est preneur carrément de tout ce qu'on peut faire, en fait, même pas que des spectacles. Au-delà du théâtre d'impro, du stand-up et des concerts, on est preneur de tout ce qui peut sortir un petit peu de l'ordinaire et de ce côté culturel là.
Et ça marche comment? Souvent dans les bars, c'est au chapeau pour les artistes qui viennent? Vous faites ce choix-là?
Pas mal de formules différentes. On a des personnes qui vont passer au chapeau à la fin. On a des artistes qui vont venir. Donc nous, on est inscrits au Guzo et tout ça. Donc on peut aussi rémunérer des artistes là-dessus. Il y a des troupes ou des associations qui vont prendre un pourcentage des ventes de la soirée. Il y a plein de formules différentes. Nous, on est fermés à rien. L'idée, c'est que bah, les gens soient contents de venir jouer ici, que nous, financièrement, puissions s'y retrouver. Faut savoir qu'on a, oui, je rajoute ça, on a rejoint aussi le collectif Culture Barbare. Donc là, il y a un festival des cultures barbares qui va avoir lieu fin d'année. Et du coup, on va proposer aussi une date pour s'inclure dans ce festival-là.
Oui, parce que quand on installe son bar à Rennes, on rejoint aussi toute une dynamique. Il y a plusieurs événements qui, enfin, où les bars jouent la carte du collectif, quoi.
Bah, y a un peu de tout, hein, à Rennes. Nous, en fait, de par notre parcours, notamment en milieu ludique, on a présidé ou co-géré la toile ludique rennaise donc sur le festival Rennes en jeu. Donc déjà, au milieu ludique rennais, il y a une belle effervescence, donc on va accueillir des associations, des auteurs de jeux, on va accueillir pas mal de choses à ce niveau-là. Et puis à Rennes, il y a une culture autour des bars qui est un peu plus exacerbée que dans d'autres villes, je pense. C'est vraiment des lieux de vie, et puis ça fait toujours un petit pincement quand il y a des grosses enseignes qui ferment. Enfin là, le chantier, quand il a fermé, c'était quelque chose quand même.
On a évoqué l'aspect ludique. On peut dire qu'il y a donc une ludothèque, là que je vois, donc des étagères remplies de jeux. On y trouve quoi? Il y a combien de jeux? C'est quoi l'idée? Et si vous avez un conseil de jeu qui est là et qu'il faut tester?
Nous, on a 200 jeux à peu près. On a essayé de faire un truc très très large. Donc on a du petit jeu court d'apéro avec très peu de règles. On a des jeux de joueurs, des jeux à 8 joueurs. On a des jeux d'ambiance. On a des gros jeux de stratégie d'une heure et demie, deux heures. On a essayé de taper dans le plus large possible. L'idée ici, c'est juste, t'as envie de jouer, tu viens, tu prends un jeu, tu peux jouer. On demande juste aux gens de consommer raisonnablement, comme quand on est dans un bar, quoi, pour éviter l'aspect... on se pose 4 heures à jouer et puis on a bu une fraise à l'eau. Bon. On est dans un collectif du réseau des cafés ludiques, donc un réseau de gens qui font du jeu de société dans les bars. Et c'est vrai que c'est une grosse problématique, il y a plein de façons de faire différentes. Payer un droit d'entrée au jeu, payer le jeu à l'heure, un tarif horaire, enfin, il y a plein de méthodes de le faire. Nous, on prend le pari de rien mettre, mais juste de se dire que les gens vont respecter ça.
Un jeu incontournable pour vous?
Ouais. C'est souvent la question qu'on nous pose dans...
C'est trop dur de répondre.
Ouais, on va commencer un jeu qui passe partout, on prend Mada.
Mada.
Et
Mada,
ouais. Là, c'est une bonne entrée dans le jeu de société où on sort un petit peu du jeu de cartes traditionnel.
Mm. C'est un jeu de cartes avec un côté un peu stop risque. Ou encore. Ouais, c'est de la prise de risque savoir s'arrêter au bon moment.
Il faut que vous vous mettiez d'accord sur un titre musical qui pourrait vous parler à tous les trois pour habiller le reportage.
Ah, c'est compliqué.
Clutch, c'est un peu rock. Ouais,
c'est pas mal. Rock, ouais. Il est déjà 15h. Hein, dans le game.
Il est 15h?
Ouais, il est 15h03.
Ah bah t'as fini.
Ouais, c'est bon, on passera la
suite. Ouais, t'inquiète, on va le faire. C'est gentil, Bianca.
Ouais.
À demain, salut.
Salut.